On aurait voulu faire ça d'avance, puis des fois, la réalité dépasse la fiction. Nous, on a prévu cette entrevue il y a quelques semaines, puis c'est sur un roman qui tombe à point dans l'actualité. On sait, hein, les tensions commerciales et diplomatiques s'intensifient entre Ottawa et Washington, avec des menaces d'annexion à peine voilées de la part de Donald Trump, qui, comme on le sait, multiplie les mensonges à l'égard de son principal partenaire commercial, le Canada. Bien, cette fiction d'anticipation prend une résonance troublante dans l'actualité. Nous recevons donc l'auteur Hervé Gagnon pour discuter de son roman 51e Canada 2038, publié aux éditions À lire. Hervé Gagnon, merci d'être avec nous.
C'est un grand plaisir.
Je pense qu'on est une des premières entrevues, puis je m'en fais un petit... je suis un petit peu fier de ça, là, parce qu'on parle de quelque chose qui est vraiment dans l'actualité. Ce polar dystopique où le Canada est devenu le 51e État américain en 2029, vous attendiez-vous, Hervé, à ce que cette réalité rattrape aussi rapidement la fiction?
Ça, c'est la grosse question, hein. Je vais vous répondre comme ça. Je suis historien de formation, mm-hmm. Je suis habitué à suivre les relations de causalité, les relations de cause à effet, et puis déterminer pourquoi telle chose s'est produite et quels en étaient les facteurs. Dans le fond, j'ai fait un exercice de prospective historique, c'est-à-dire que j'ai appliqué la même méthode à un avenir immédiat, puis en me fiant à ma familiarité avec les liens de causalité, mm-hmm. Ben on arrive à quelque chose de plausible. Est-ce que je m'y attendais? Oui. Est-ce que je l'espérais? Non. Parce que, ben, quelque part, oui, je veux vendre des livres, là, je suis content que ouais. Ça marche, mais en même temps, je n'ai pas envie qu'on devienne le 51e État.
Ben, on espère que ça va s'arrêter à un moment donné, là, parce que là, ça commence à ressembler au roman un peu. Là.
Ben, les événements de la fin de semaine me donnent raison à date.
Ben oui, parce que je vais quand même faire un petit résumé de... On vous promet, on divulgue pas.
Ne divulguez pas la fin, c'est très important.
Alors, dans le livre, le président Daniel Fromm Jr., étrangle l'économie canadienne à coup de tarifs douaniers. Ça me rappelle un peu ce qui se passe présentement avec les déclarations à l'emporte-pièce et les surtaxes imposées par Donald Trump. Je le dis encore, est-ce que le réel dépasse ce que vous avez imaginé dans votre roman?
Il ressemble beaucoup.
Ouais.
En fait, je ne dirais pas que ça dépasse. La réalité n'est pas pire que la fiction, mais la fiction n'est pas non plus pire que la réalité. Mm-hmm. On est au début de mon roman. On est au moment où les premiers ministres disent qu'il faut réagir.
Ouais. Ouais.
Ils vont réagir dans mon roman de la très mauvaise façon. Et le pire, c'est qu'il y a déjà deux premiers ministres depuis samedi qui ont suggéré cette façon-là.
On parle de quelle façon, déjà?
Je ne le dirai pas.
Okay. Moi non plus, dans ce cas-là.
Mais elle est très évidente une fois qu'on y a pensé.
Oui, bon. Tout à fait. Votre récit met en scène un Montréal dévasté à faire peur, qui est sous le contrôle de la Garde nationale. Pourquoi avoir choisi Montréal pour centrer cette histoire-là?
Comment dire, Montréal est déjà un peu dévasté. C'était pas faire un gros exercice d'imagination que de pousser un peu plus loin le nid de poule et les rues défoncées.
Mais là, c'est des nids d'hippopotames, là, ça n'a pas de bon
sens.
Oui,
mais tu sais, je veux dire, quelque part, c'est juste 12 ans de mauvais entretien de plus, là, tu sais. Et j'avais besoin aussi d'avoir un décor qui était familier aux lecteurs québécois.
Oui, c'est vrai.
J'aurais pu mettre ça à Québec, mais tu sais, il y a combien de grandes capitales au Canada? J'avais le choix de Toronto, Vancouver, Montréal. J'ai choisi celle qui était la plus centrée. T'sais.
Moi, j'avoue, là, je vais le dire tout de suite à ce moment-ci. Quand j'ai lu votre livre, d'abord, j'étais fâché à chaque fois.
T'as une froid dans le dos un peu aussi, hein?
Ben, en fait, ouais. ça me faisait peur, puis en même temps, ça méritait. Puis je dis, ben, j'aime pas ça. Puis là, je me dis, ben, j'aime le livre, c'est juste que l'histoire est... Ouais. Et on n'est pas capable d'arrêter.
Mais c'est le pari qu'un auteur prend, des fois, d'écrire une chose dont il sait très bien qu'elle va déplaire à tout son public.
Et que les gens vont lire pareil.
Mais que les gens vont le lire quand même parce que mon histoire déplaisante est une bonne histoire. T'sais, c'est comme le journaliste qui dit « Je viens de déterrer quelque chose d'affreux. »
Ben oui.
Mais c'est un affreux qui va intéresser les gens.
Tout à fait.
Alors moi, ce que je voulais, c'est dans le fond, le sous-titre qui est là, « Canada 2038 », c'est pas le mien. Moi, j'avais suggéré un avertissement.
OK.
Parce que dans ma tête, c'est ce que ce livre-là, ce roman-là est, c'est un avertissement. Les choses pourraient virer comme ça très facilement. Bon, on pourrait perdre tout ce qu'on tient pour acquis.
Il y a deux enquêteurs. Excusez-moi. Il y a deux enquêteurs, Fils-Aimé et Fourlet, qui font face à un groupe de résistance nommé, écoutez bien ça, le FLQ 1837. Alors, quel rôle joue l'identité québécoise, la culture francophone dans cette lutte contre l'assimilation des États-Unis? Puis on vient d'entendre, hein, ils aimeraient bien qu'on se débarrasse des clauses linguistiques.
Ouais, mais ça, ils l'ont proposé parce qu'ils ne voulaient pas d'accord. Ils ont proposé ça à la dernière fraction de seconde, en sachant très bien que c'était une ligne rouge à ne pas traverser, même dans une administration d'incompétents. Il y a quelqu'un de compétent, quelque part, qui les avait avisés que ça, c'était pas sur le... c'était pas sur la liste de négociations possibles. Mm. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils n'en voulaient pas, ils voulaient imposer des tarifs. Ce qui aussi me donne raison. Ouais. Mais bon, pourquoi la culture... quel rôle joue la culture québécoise là-dedans? Ben, c'est ce qu'on perd. J'ai mis en scène un Montréal et un Québec qui se louisianisent. Et la raison à ça est très simple, c'est que avec les réseaux sociaux, avec on est dans une ville et on est dans un pays occupé. C'est un 51e État, mais il n'est pas encore libre. Pour l'instant, il est occupé par la Garde nationale, par le Secret Service, etc. Ce qui fait que finalement, ça, ce qu'on voit là-dedans, c'est que ça prend une génération, peut-être deux, pour ne plus avoir d'identité. Puis il y a une scène là-dedans qui est crève-cœur, où le petit-fils de l'enquêteur revient à la maison tout fier de dire « Papi, papi, j'ai appris quelque chose par cœur aujourd'hui, c'est un petit bout de chou de 5-6 ans, et qui récite en anglais le Pledge of Allegiance.
Wow. »
Pour lui, c'est la réalité. Et c'est seulement la génération d'après la fille du personnage. Yep. Alors la fille se rappelle d'avant, le petit-fils ne s'en souvient pas, ne l'a pas connu. C'est tout ce que ça prend pour cesser d'exister. Ça prend juste un pouvoir oppressif, une coupure par rapport au passé, et voilà.
Il y a quand même une...
Je suis réjouissant ce matin. Hein?
Oui, mais ben, en fait, non, je vais quand même dire que c'est pas tout noir non plus dans ce roman. Il y a une résistance.
Ouais.
Avec plus ou moins de succès, puis je laisse ça là parce que je voudrais pas... On veut pas dire la fin quand même. Là.
C'est des beaux personnages jouissifs, ceux-là. C'est...
Ah, oui.
Je les aime énormément, moi. Ils se font pas d'illusions non plus.
Non.
Hein?
Non.
Ils donnent des petits coups, des petites tapettes à gauche et à droite, ils pincent un peu, mais ils savent très bien qu'au final, ils vont pas changer grand-chose.
Ouais. Hein? Mais c'est quand même des personnages, et même le personnage de Fourley, qui, lui, a de la difficulté à arrêter les gens de la résistance parce que il y a un combat intérieur là-dedans. Là.
Il les trouve sympathiques.
Il est d'accord avec eux.
Il éprouve de la sympathie, oui. il les aime, il trouve qu'ils ont du courage, il voudrait avoir leur âge.
Ouais.
Tu sais, on écrit les personnages de ce qu'on est devenu. Hein, je veux dire, moi, j'ai plus 20 ans, là, j'ai plus 30 ans, je n'ai même plus 50.
Mm.
Puis j'aurais peut-être pas le courage d'aller faire ce que ces jeunes-là font dans l'histoire. Mais c'est beau qu'ils le fassent.
On le fait par procuration.
Hein? Ben, c'est ça, on invente des histoires à la place.
Alors, Mark Carney a évoqué récemment que les attaques contre la langue française, les subventions culturelles dans les négociations, est-ce que la culture serait le dernier rempart contre l'annexion économique et politique?
Ça, c'est la grande question. Mais ça dépend. Je veux dire, moi, la façon dont je l'ai tissé, ce récit-là, il faut à peine, comme je le disais tantôt, deux générations pour la perdre, ta culture.
Mm.
Lorsque le personnage principal et sa collègue sont disparus, la culture va s'en aller. La génération qui a été conquise, généralement, arrive à sauver la génération d'après. C'est tout. Et puis, regardez les efforts qui sont faits en Louisiane aujourd'hui pour... ressusciter le français, les écoles françaises. Bon, des gens comme Zachary Richard qui le fait depuis longtemps, mais comme Jourdan Thibodeau qui prend le relais un petit peu, tout ça. Mais il y en a peu de ces gens-là. Et c'est beaucoup plus dur de reconstruire que de préserver.
Ouais.
Alors, la question que le roman pose en définitive, c'est combien de temps tu peux survivre si tu n'agis pas? Et heureusement, il y en a qui agissent. Puis bon, il y a quand même une fin qu'on ne trahira pas.
Non.
Mais qui donne
et que c'est dur de faire ça, de ne pas trahir la fin. Hein?
Non, mais c'était... Rassurez-vous, chers lecteurs éventuels, il y a quand même... un minimum d'espoir.
Tout à fait.
On va le dire comme ça.
Alors, je vais poser des questions très rapidement parce que c'est... Quand j'ai parlé du roman à des amis, ils m'ont dit « Mon Dieu, mais il a pris combien de temps à écrire ça? » Parce que c'est tellement d'actualité.
3 mois.
Ah,
je me suis réveillé un matin, il fallait que je l'écrive, ça a été ça.
Ah, 3 mois.
Ça m'est jamais arrivé d'avoir une urgence d'écrire comme ça.
Mais il y a de la recherche, là, dans des faits historiques.
Bon, là, je ne tiens pas compte, mettons, du mois et demi, 2 mois de lecture préparatoire.
Oui.
Mais j'avais déjà lu une tonne de trucs sur Trump, parce que ça fait depuis 2016 que j'essaie de comprendre la bête. Et j'en ai ajouté une dizaine, douzaine.
Est-ce que tu avais réussi à le comprendre? Moi non, pas encore.
Oui, oui, j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre. j'ai accepté le fait qu'on vit dans un monde de démence pure, d'improvisation, d'effets spéciaux et d'effets choquants.
Le type
vit dans une télé-réalité, tout simplement.
Je terminerai là-dessus. Il faut toujours savoir qu'il ne faut pas dire des affaires hors d'onde à un journaliste parce qu'il s'en rappelle. Est-ce qu'il y aura une suite?
J'aimerais qu'il y en ait une.
Qu'est-ce que je suis venu?
Je vais laisser à mon éditeur le soin de voir si c'est pertinent. J'en aurai une et j'ai laissé une porte ouverte.
Bon, alors Hervé, vous êtes un bon politicien, mais surtout un bon auteur.
Merci. Je ne sais pas si je vous remercie pour les deux, mais je vous remercie pour le second.
C'était une taquinerie, le premier commentaire. Merci beaucoup, Hervé Gagnon. Je rappelle que le livre, le 51e Canada 2038, publié chez Alire, sort en librairie le 11 septembre prochain. Oui, je sais, je l'ai déjà lu parce qu'on est des petits privilégiés.
Vous êtes privilégiés,
on fait de la radio, puis c'est ça. Merci beaucoup, Hervé.
Ça fait plaisir.